Nombreuses familles vivent heureuses et en harmonie, la famille peut, malgré tout, être un espace de violence. Les membres d'une famille peuvent ne pas se côtoyer, se rejeter, se haïr ou vouloir disparaître. Greenhouse décrit aussi l'accompagnement de la vieillesse, la dépendance, les maladies, la démence, Alzheimer, l'éloignement de la famille. Et en cela, le sujet devient universel et dépasse largement les frontières de la Corée, comme le souligne la réalisatrice. Bien que mon traitement de cette question prenne une direction trouble et même sombre, il était inévitable pour moi, dans ma mise en scène, d'aller jusqu'à cet extrême et d'aborder ce thème de cette manière. Le groupe d'expression fait également le constat du mal-être dans la société coréenne. La prise de parole de la jeune Soonam en est une illustration et la rencontre entre les deux femmes est déterminante, surtout pour la jeune fille qui a toujours été rejetée. Les deux destins deviennent alors étroitement liés, ne serait-ce que par la frustration qu'elles ressentent toutes deux dans les relations qu'elles subissent plutôt qu'elles ne contrôlent. À aucun moment, Moon Jung n'accorde une réelle importance à Soonam. La compassion dont elle fait preuve est simplement le reflet de sa personnalité. Mais pour Soonam, qui a toujours été rejetée et à qui l'on n'a pas donné de place dans la société, ce peu d'attention va lui suffire pour s'épanouir. Et sa relation avec Moon Jung va entraîner des conséquences importantes dans sa vie. La trame du film semble avancer vers une fatalité, écrite à l'avance, pour les deux femmes, mais il demeure néanmoins une ambiguïté, une possibilité, malgré la fin radicale, certes, table rase du passé, qui laisse au public une ouverture, un dénouement double, un nouveau départ ou l'enfermement dans un cul-de-sac. Greenhouse, de Lee Soo-ryu au cinéma, depuis le 29 mai.
Tunnel to Summer, un film de Tomohisa Taguchi. Deux ados et un tunnel magique où le temps passe plus lentement qu'au dehors. Selon la légende urbaine, trouver et traverser le mystérieux tunnel d'Urashima offre à celui ou à celle qui s'y aventure la réalisation de son vœu le plus cher. Seulement voilà, l'expérience n'est pas sans risque, puisque quelques secondes à l'intérieur du tunnel se transforme en plusieurs heures dans la vraie vie. Kaoru, un jeune lycéen, veut tenter l'aventure car il aimerait tant retrouver sa petite sœur disparue accidentellement, dont il pense avoir une part de responsabilité dans l'accident et en est traumatisé. Peut-être lui parler. De plus, son père est d'un caractère violent. Solitaire, sensible et plutôt secret, il faut bien qu'il se protège, Kaoru fait la connaissance d'une nouvelle venue dans sa classe. Anzu, qui arrive de Tokyo, est très délurée, complètement en décalage avec les autres élèves. Elle dessine des mangas, à l'exemple de son grand-père, a beaucoup d'imagination, ne s'en laisse pas compter, désire accompagner son ami dans cette expérience et est prête à découvrir le tunnel mythique pour en vivre les transformations d'espace-temps. Anzu persuade donc le jeune homme de l'accompagner sans savoir ce qu'elle attend elle-même de l'exploration du tunnel. Et les voilà en route vers une expérience qui, sans aucun doute, participera de leur évolution et de leur relation. À l'origine, Tunnel to Summer est un light novel, des œuvres assez légères, très en vogue au Japon. Cependant, ce roman-là a un aspect très littéraire, plus construit et profond. C'est cela qui m'a plu, explique le réalisateur. Depuis toujours, j'avais très envie d'adapter un roman à l'écran. Mais l'animation au Japon, ce n'est pas forcément simple et certains projets ne sont pas faciles à mettre en œuvre. Les images sont très belles. La découverte du tunnel est prétexte à la création d'images fantastiques. Quant au récit, il débouche sur des réflexions à propos des traumatismes, qu'il s'agisse du deuil, de la violence des différences entre milieu urbain et vie à la campagne, et bien sûr, sur le temps écoulé. Tunnel to Summer de Tomohisa Taguchi au cinéma le 5 juin.
Alors, le film a été présenté au Festival d'Annecy en 2023, et je rappelle que celui de 2024, le Festival d'Annecy, c'est du 9 au 15 juin, mais nous en reparlerons. Pardon vraiment à Nicolas pour ce retard. La semaine prochaine, eh bien, il y aura plusieurs films. Il y aura évidemment l'entretien avec Pierre-Philippe Chevigny sur Dissidente, mais il y aura également, on parlera de Gloria, de Margarita Vicario, Love Lies Bleeding de Rose Glass, Les premiers jours de Stéphane Breton, et nous parlerons évidemment aussi de théâtre, puisque comme ça, ça fait un lien avec l'émission Dessous de scène. C'est un spectacle de Nicolas Briquier, ça s'appelle Denali, et ça se passe au studio Marigny. Très très bonne semaine, et bien entendu, comme d'habitude, tenez bon.
Mais quel temps, il pleut, si c'est pas du dérèglement climatique, ça, marquez, le dérèglement climatique de l'être humain, j'ai remarqué, je sais pas si vous avez vu, on se retrouve avec des abstentionnistes qui ont une liste pour les élections européennes. On se retrouve avec des révolutionnaires internationalistes qui se drapent dans des drapeaux et scandent des slogans réclamant une frontière tracée précisément là et là. On se retrouve avec des antimilitaristes qui réclament des armes. On se retrouve avec les descendants des fachos qui soutiennent le gouvernement d'Israël rien que pour emmerder les Arabes. On se retrouve avec des athées qui se réclament de mouvements radicalement islamistes. Si ça, c'est pas du dérèglement climatique. Dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques, bonjour. Quelques petits... Je me souviens que dès la première récréation, suite à l'appel du premier jour de classe par le professeur principal, Nicolas Papadopoulos avait tenu à nous dire qu'il n'avait rien à voir avec le régime des colonels, son père étant au contraire un exilé. Et quand Marie-Claude Delaroque nous avait expliqué qu'elle avait une branche commune avec le fondateur des Croix de Feu, on lui avait pardonné pour ses beaux yeux et surtout pour notre mauvaise connaissance de l'histoire de France. Je me souviens que j'ai mis 10 ans à apprendre que celui que j'appelais l'imbécile heureux qui colle son portrait photocopié en noir et blanc sur les murs de Paris s'appelait en fait Noj Noma, puis John Hammon, et était un artiste de street art. Je me souviens de la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair plus vague et soluble dans l'air, et puis après j'ai tout oublié jusqu'à « et tout le reste est littérature ». Je me souviens que mon grand-père avait stocké 17 kilos de sucre en poudre sur une étagère au-dessus de la porte de la cuisine et 12 bidons de Solexine dans son atelier. Je me souviens qu'on était jaloux de Lé, parce que Lé, il habitait au-dessus du Cinévox Saint-Lazare et pouvait nous indiquer en avant-première les titres des films à l'affiche. Trois Suédoises à la pompe, Blanche Fèche au pays des sept nains, Règlement de compte au cul choral, Mémoire d'une culotte, La prof enseigne sans préservatif, Fais-moi tout, L'arrière-train sifflera trois fois et Le pensionnat des petites salopes, en relief avec des lunettes rouges et vertes fournies. Je me souviens que Geneviève se tenait prostrée, plus silencieuse que la pendule, les doigts noués, dans le petit salon de Madame Manchon qui sentait la cire, la pastille Vichy et la fausse bourgeoisie de province. Ce n'est qu'à la mort de sa mère qu'elle se remit à parler et au départ de sa sœur aînée qu'elle se maria et ouvrit une épicerie. Je me souviens de Laurent et Sylvain qui agitaient un grand drapeau noir à la sortie de la mutue pour recueillir des dons pour le monde libertaire. Je me souviens que les marchands d'armes ont tous de beaux enfants. Je me souviens du carnet à spirale dans lequel j'avais recopié les paroles de Bella Ciao, de Bandiera Rossa, plus quelques autres chansons d'Hugo Frey, Céline, Stubble, Santiano, qu'on chantait dans le car quand j'étais gamin, et puis quand je fus à mon tour moniteur. Je me souviens de ma deuxième surprise partie, pour lequel Jacques nous expliquait qu'il fallait, au moment des slows, se glisser une bouteille de Coca-Cola dans le pantalon pour simuler une trique d'enfer. Bouteille petit format quand même. Je me souviens que quand j'avais annoncé tout fier à Serge en septembre à la rentrée en quatrième, j'ai retrouvé cet été en relisant mes vieux pif gadgets la blague que tu leur avais envoyée il y a 3 ans. Elle a été publiée comme blague de la semaine. Serge m'avait pas laissé continuer, n'assumant plus pifou, pif, placide et museau, maintenant qu'il lisait Strange et d'autres Marvel, et puis surtout, il n'assumait plus la blague du petit nuage qui va faire pluie. Et pourtant, elle avait été sélectionnée comme blague de la semaine, et elle lui avait même rapporté un cadeau, je crois. Je me souviens d'avoir écumé pendant plusieurs années Fnac, disquaire de quartier, il y en avait encore, discothèque de la ville, stand opus, Virgin Megastore, à la recherche des versions des Feuilles mortes, Autumn Leaves en version jazz, pour la radio, et dans un désir maniaque de collectionneur. Et puis maintenant, avec un clic sur YouTube, j'ai 50 versions proposées en une demi-seconde, dont au moins 2 en boucle continue de plusieurs heures, pour des névropathes comme moi. Je me souviens que j'ai longtemps cru que dans la chanson des Beatles, Penny Lane était le nom d'une fille. Je me souviens d'avoir passé des heures dans le jardin de la grand-mère de Bertrand, ou plutôt le long du jardin, entre la haie d'arbres et la clôture. Incroyable terrain de 30 cm de large sur 5 mètres de long, empli de cachettes, d'embûches, d'embuscades, de fauves et même d'indiens. Quand je suis repassé voir Bertrand et sa grand-mère à la fin de l'adolescence, je n'ai vu que des mauvaises herbes et un grillage contre lequel on effilochait son chandail. Comment Bertrand avait-il pu chasser les bisons en 3 ans et 20 centimètres? Je me souviens de Félix Anciot, Camille Belleville, Georges Laroquette, Louis Lemarchand, quelques noms attrapés sur le monument aux morts de la guerre de 14, le long du Père Lachaise, Jules le Pâtre, Henri le Pêcheur, on les a oubliés depuis le temps, et pourtant, ce fut une génération envoyée sur le front, dans la Somme et ailleurs. Ah, et puis, je me souviens de Alain Minot, la moustache drue, le verbe riche, la révolte éructée, la casquette, les grandes pages qui défilaient entre les mains, parfois, un texte de plus en fin d'émission, écrit le matin même. Je me souviens de Alain Minot, qui se disait des textes dans notre émission. Salut Alain.
Ce jouet de l'immobilité muette et de la mobilité aveugle. Des hauts murs, quoi? s'excepte le drapeau claquant. Sur l'équerre proche, le cadran du séjour. Filant température, heure et date du jour. Ici, des voix mobiles au bon sens, marquant, ce sont femmes zappant le culte du travail, s'animant de rire au rôle en catapulte, lancé fort sur la ville, sans écho qui vaille, pour entendre ce qui lui est fait comme insulte. Vient l'instant des lampes tranquilles du savoir, qui dans leur temple gardent tous les chauds discours. Les reines ici sont parties sans un au revoir. Qu'est-ce qu'un poète qui ne leur fait la cour? Mais, coup de vent, hameçon de circulation et sérieux signal de la ville qui défile, on entre dans la nuit sans la grande passion de mettre dans ses filets des poissons tranquilles. Les passants ombres mobiles qui se dissipent sans presse, filant vers la caresse du home, un poème qui sur l'habitude anticipe, joue sur la paresse l'altitude de l'homme. Vitesse! Quand sortirons-nous de tes ornières? Au moment où manque l'entrée d'un horizon? C'est bien dans les courses dernières qu'il se perd. De l'aube, du crépuscule, où défaille raison. Plus d'appel qui conforte l'amitié sereine. Il faut sceller un pacte pour la retrouver, avec les errants à main liée, souveraine à tous les voyages, sans arrêt entravé. Jeune femme, vous preniez vos droits de la ville et laissiez votre savoir hors de tout bagage. Mais il manque encore à la conscience servile un poème réarmé de science sans rage.
Et voilà, un texte d'Alain Minot accompagné à la flûte par Michel Sol. Michel qui reviendra un de ces quatre dans cette émission pour un hommage, là encore, à un autre de nos anciens, à Tim Lazer. Mais là, effectivement, ce texte d'Alain Minot pour vous signaler la disparition de notre ami poète ce mardi de cette semaine. Je ne sais pas, peut-être qu'on prévoira un autre petit hommage. D'ailleurs, il y aura tout à l'heure un texte d'Alain lu par Evelyne. Dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques. Ariel, on t'embrasse bien fort. Elsa aussi. Et puis autour de la table, qui sont les présents du jour?
Michel, avec un livre dont je vous lirai un extrait tout à l'heure.
Laurent, bonjour à vous, pour une séquence, donc ma séquence habituelle, avec une invitée, c'est une première, je crois, dans notre émission. Elle s'appelle Hiroko Kageyama.
Hajimemashite. Bonjour, enchantée.
Voilà Nicolas, les présentations sont faites.
Eh bien, je te laisse entamer.
Eh bien, nous allons entamer un périple dans un domaine très particulier. Je crois qu'on a rarement, peut-être c'est la première fois qu'on l'aborde, en tout cas dans cette émission Dessous de scène du 1er juin 2024. C'est un voyage à travers les chants et les musiques traditionnelles du Japon. Et mon invité, donc Hiroko Kageyama, dont vous avez entendu la voix, eh bien, je l'ai rencontré à l'issue d'un spectacle de théâtre et de chansons. Et elle m'a été présentée par un ami très cher qui aime infiniment la chanson française, c'est Hirofumi Shonan. Et Hirofumi a eu cette bonne idée, nous avons conversé, et en échangeant, eh bien, Hiroko m'a parlé de cette passion qu'elle a pour le patrimoine, un patrimoine que l'on trouve beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, j'étais très étonné sur YouTube, il y a énormément de documents. Et évidemment, les disques, on les trouve aussi un peu, mais peut-être pas autant que sur YouTube. Donc, c'est une manière de réparer peut-être un manque discographique par une présence sur le net, avec parfois et même souvent de très belles images également. Et Hiroko, eh bien, m'a proposé plusieurs séquences avec des styles différents. Et je lui ai dit oui tout de suite, et nous allons tout à l'heure entendre Hiroko Kageyama, eh bien, faire un exercice très particulier, un exercice, on peut dire, pré-olympique, c'est-à-dire chanter a cappella en direct, ce qui n'est pas simple. Mais j'ai dit oui tout de suite parce que nous, vous le savez, ici sur Radio Libertaire, on aime le direct. Alors, avec le jeu des fichiers qui sont arrivés dans l'ordinateur, je pense que Nicolas a tout ça sous les yeux et on va bientôt pouvoir entendre un morceau. Alors Nicolas, tu me dis hein, quand c'est prêt. C'est bon, il me fait un petit signe de tête, c'est prêt. Alors avant, une petite présentation de Hiroko Kageyama. Dans le domaine professionnel, vous n'êtes pas vraiment dans la musique, c'est pas votre métier. Vous avez un autre métier qui est proche de la bouche, c'est ce qu'on appelle un métier de bouche.
Oui, la bouche est devenue mon second métier parce que j'ai soutenu les victimes de Fukushima et c'est le gouvernement portugais nous a accordé d'exploiter 65 hectares au Portugal. Du coup, nous avons des produits frais qui vient de Fukushima ou tout le Japon et on va transformer et on va déguster chez moi. Voilà.
Chez vous. Alors c'est dans Paris ?
Oui, dans le 11e arrondissement.
Oui, et alors c'est un restaurant ou c'est un lieu plus convivial ?
En fait, c'était
comment,
voilà, c'est
un
ça.
Bar.
J'ai monté mon association interculturelle il y a 25 ans et donc j'ai acheté un atelier de menuisier. Et vraiment, c'est le hasard incroyable. 8 ans après, il y a un petit local qui était disponible dans cet immeuble. Nous avons acquis cet espace. Et en fait, c'était le précurseur de Nouvelle Libertaire qui a été plastiqué en 1962. Et ils ont déménagé à rue Amelot. Voilà. Donc, je vis dans l'espace et moi je soutiens victime de Fukushima et ben voilà, c'est comme ça que le boucle a formé.
Alors là c'est assez extraordinaire hein. Vous nous en avez parlé dans le SAS juste avant l'émission, il y a quand même des coïncidences qui sont tellement fortes qui nous dépassent complètement hein, dans la vie, c'est incroyable.
Incroyable.
Vraiment
quand on est installé, il y avait des latinos, Amérique latine qui frappaient la porte pour nous demander d'héberger ou quelque chose et je n'ai pas compris du tout. Et voilà.
Quelle histoire, voilà. Donc avec nous, Hiroko Kageyama, avec cette passion pour la culture hein, de votre pays. Depuis combien de temps vous êtes installé en France ?
Ça fait 51e année cette année.
Ah oui.
Et en fait, mon premier métier, et je exerce toujours, je suis architecte intérieur et paysagiste. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je suis arrivée dans le quartier des artisans.
Très bien, très bien. Alors, à propos d'artisans, ben justement, Il y a des chants, il y a des instrumentaux, et là, donc, sur la liste que nous avons donc un chant de pêcheur. C'est bien ça ?
Exactement.
Alors, un chant de pêcheur, alors, il est sur YouTube, c'est assez impressionnant, et puis les images aussi le son. Alors j'ai noté, Hiroko, j'ai noté que vous avez, dans la liste que vous m'avez envoyée, d'abord noté bien sûr le titre, et puis surtout la région. Alors, il y a normalement deux titres qui viennent de la même région, en tout cas, il y en a trois, même quatre d'ailleurs, je suis en train de regarder cette liste. Alors, la région de Miyagi, comment ça se prononce ?
Miyagi, c'est ça, oui. Ouais. C'est alors, Sendai, et c'était l'endroit où ça a été vraiment le plus grand dégât dans le tsunami. Voilà, et c'est pour ça que j'ai beaucoup voyagé, soutenu, et j'ai entendu ces chansons, donc j'ai vraiment envie de me faire partager, donc chansons de pêcheurs, et le père qui marie sa fille, et donc le moment de son départ, il chante son voyau, voilà. Et puis une autre, c'était, je me rappelle plus exactement.
Alors il y a une berceuse également.
Ah, berceuse,
vous nous proposez, c'est Itsuki Komori Uta, voilà, c'est bien ça.
Donc voilà. Berceuse et mineur, c'est l'île de Kyushu, voilà. Donc c'est toujours pareil, c'est la pauvreté des peuples. Non, je chante vraiment cette. J'ai choisi aujourd'hui les chansons des travailleurs depuis donc 13e siècle.
Ah oui, c'est voilà. Important aussi, voilà. C'est la question que j'allais vous poser par rapport à l'époque de ces chants. Alors, on va commencer par le premier, Saitara Bushi.
Saitarabushi.
Voilà, chant de pêcheur sur le chalutier.
Chalutier, de oui. Bonite, en fait.
C'est-à-dire ?
Alors, c'est le bonite se pêche avec sardines et pêche à la ligne. Donc, un sardine pêche un bonite. Et le chalutier, il fait 31 de longueur, de 31 mètres. Et puis, il y a 23 personnes à bord. Et. Donc, quand il arrive au bout de 2-3 jours, 1000 bonites, il rentre dans son port-mer. Et suivant le nombre de pêches, nombre de bonites, il enlève, il se hisse le drapeau. Et la chanson que vous allez écouter, c'est des chansons qui annoncent l'arrivée de ce chalutier, et quand il entend les femmes entendent ce chanson chantée, et ben elles courent avec l'eau de la pluie qui est l'eau fraîche, et parce que dans le bateau l'eau il est déjà pourri pendant 2-3 jours, et donc voilà, ça c'est chanson d'accueil de chalutier.
Donc on écoute Saitara Bushi.
Yes.
C'est maintenant en direct.
Yeah.
Antenne nous dit Nicolas, et je n'ai pas salué Nicolas, mais je le salue et je le remercie pour son accueil et pour sa curiosité légendaire, puisque ici on a aussi bien la chanson, la poésie que les musiques du monde de temps en temps quand on a cette chance, voilà, de faire des rencontres. Et aujourd'hui, la rencontre, c'est avec Hiroko Kageyama, dont vous avez entendu un peu une partie de la biographie, et donc qui vient nous proposer un premier morceau. Ça s'appelle Saitarabushi, donc chant de pêcheur sur le chalutier, des instruments à cordes. Là, il y en a beaucoup là, alors on peut en parler parce qu'il y a des musiciens venus d'Éthiopie, c'est bien cela? Vous allez les voir sur YouTube, c'est assez fascinant de voir les instruments traditionnels se marie avec notamment les flûtes. Vous allez voir les flûtes japonaises, et c'est quand même une très belle rencontre, en tout cas entre deux continents. Voilà pour ce premier morceau. Alors, il y a un petit téléphone qui sonne de temps en temps, et Hiroko va aller fermer son téléphone, puisque juste avant l'émission, elle nous a envoyé encore quelques fichiers. On est content d'avoir la technologie, puisque voilà, il y a toujours des choses qui se font juste avant l'émission. Alors, deuxième titre, dont Hiroko nous a parlé tout à l'heure, un chant de mariage, c'est donc le père de la mariée à la sortie du mariage.
C'est ça.
Alors qu'est-ce qu'il dit? Ce serait bien qu'on ait un peu quelques mots, une traduction, disons, fragmentaire. Allez.
Alors, j'aimerais bien écouter d'abord.
Écouter d'abord. Oui, oui. Ah ben, très bien, on va l'écouter d'abord, et puis ça y est.
Masake no
Eh bien, voilà, nous avons écouté Otachizake. Est-ce que c'est bien
Otachizake.
Cela
Otachizake.
Ah, avec l'accent de Hiroko, notre invité, c'est un petit peu mieux.
Voilà.
Alors, chant de mariage, le père de la mariée à la sortie du mariage, toujours de la région de Miyagi.
Exactement.
Où se trouve cette région, Hiroko?
Eh bien, c'est sur le nord, un petit peu au nord de Tokyo, et sur le littoral. Donc, vous m'avez demandé de traduire le chanson.
Enfin, et pas dans l'intégralité, quelques...
Oui.
L'esprit.
Donc, oui. L'esprit, c'est voilà. Que, bon, dès maintenant, quand tu franchis cette porte, tu appartiendras à la famille de ton mari, et je te regretterai. J'ai envie de pleurer, hein. Bon, alors, il dit, on va vider le coupe de saké ensemble, le dernier saké avec toi, et soigne-toi bien, mais quand tu veux, tu peux rentrer chez nous. Voilà, c'est ça. C'est fort, hein, c'est partout pareil. Hein.
Oui.
Voilà.
Mmh. Oui, c'est la tradition du chant,
ouais.
Et c'est certainement donc séculaire, on peut supposer.
Ouais.
Alors maintenant, un troisième titre. Alors moi, j'ai noté une berceuse, mais est-ce que c'est bien Itsuki Komori Uta? Parce que j'ai...
C'est ça, Itsuki no Komori Uta.
Alors, je pense qu'on doit la voir sur...
C'est a cappella d'une vieille dame qui chante.
Oui, parce que là, il y avait marqué dans les notes une fille de 7 à 10 ans. Alors...
Voilà, elle doit être une jeune fille
ouais.
Qui a été vendue ou donnée aux propriétaires terriens parce que la famille avait beaucoup d'enfants. Et donc, dès qu'elle arrive à 7 à 10 ans, le classe oubliée agricole donne ses filles à exploitants agricoles. Donc, c'est la chanson, la parole, et celui de fille qui porte les bébés, et elle regarde de la famille aisée, et que ma vie est telle qu'il est, et que j'attends le moment où je retrouve ma maman. Voilà.
Oui, parce que là, ça va être très tardif. Elle va grandir là-bas. Elle va sous la protection, si on peut dire, entre guillemets, des propriétaires très aisés. C'est
ouais,
bien ça.
Mais bon.
Et oui, donc là, il s'agit donc d'une berceuse.
Mm-hmm.
Voilà. Eh bien, si c'est bon, on va pouvoir l'écouter.
貧しさゆえの子守奉公にわずか7歳から10歳の子が自分の島で想像する過酷さ、小別峠という地名も親と子の別れの辛さを表しています。
Oh.
よくらよ戻る子供堪忍堪忍愛しとたちゃんよ香りよかきも
ん。Eh bien, voilà cette berceuse de la région de
Kyushu, l'île de Kyushu, le sud.
Ah, le sud.
Maintenant, ouais.
Très bien. Eh bien, nous avons donc comme invité Hiroko Kageyama, qui est venu nous présenter des chants et musiques traditionnelles. Il y aura aussi quelques instrumentaux, je pense. Et donc là, exercice très particulier, avec Allez. Le sourire de Hiroko, qui va nous faire un chant a cappella.
Non, pas non. A cappella. Il y a le koto. Donc,
Le koto maintenant.
Koto, et je chanterai dessus le parole.
Ah, d'accord. C'est ce que je n'avais pas tout à fait saisi. Alors, il faut quand même parler du koto, parce que c'est un instrument que nous, en France, on connaît un peu, parce qu'il fait partie des instruments, on peut dire, emblématiques du Japon. Et en plus, c'est un instrument qui s'exporte, puisque c'est un instrument transportable. Il doit faire un bon mètre de longueur. C'est comme une sitar à l'horizontale. Et vous verrez d'ailleurs l'instrument, qui est d'ailleurs très beau, très très beau. Et donc, vous verrez les images de cet instrument, et surtout la sonorité, qui est d'une grande finesse, et qui est aussi bien en solo, mais qui peut aussi accompagner la voix humaine. C'est bien ça, Hiroko. Alors voilà, le koto, alors j'appelle le nom, c'est très facile, c'est K-O-T-O, et c'est donc cet instrument à cordes qu'on voit parfois en Europe. On a dû forcément le voir, entre autres à Paris, et dans des festivals, notamment à Paris, à la Maison des Cultures du Monde, qui a fait venir des musiciens d'un peu partout du monde. Et voilà, je vous suggère et vous recommande de jeter une oreille sur cet instrument très particulier de la culture japonaise. Alors, on va donc écouter le titre maintenant, et puis Hiroko va chanter sur le titre.
Sur le titre de première partie, ouais.
Eh ben très bien.
Eh ben Laurent, à ce moment-là, il faut que tu lui passes ton casque.
Alors je vais passer mon casque à Hiroko. Et est-ce que...
Alors si c'est... Alors,
oui,
c'est...
voilà. Alors est-ce que Nicolas peut monter peut-être un tout petit peu le son dans le casque? On va faire peut-être un... Un chouïa. Non, même pas.
Non.
Eh ben tout va bien.
Les gens doivent... écouter le koto plutôt que ma voix.
Bon, quelle modestie, Hiroko. Oh là là, quelle modestie. Eh bien, on y va. Alors, le micro est là. On peut le déplacer comme ça.
Voilà.
Et on écoute.
Haruko さして千代の松が湧き出し
parler après tant de beauté là. Et puis merci beaucoup Hiroko, là on était avec Michel Tourte qui est là, avec Nicolas que je regarde dans la cabine son, et moi-même on était très impressionnés par cette contribution vocale en direct sur le premier couplet, je pense, de ce chant. Et est-ce que on peut avoir la traduction?
Oui, alors, oui. C'est le château en ruine. C'est l'ancien samouraï qui passe devant ce château dans la nuit en pleine lune, et il imagine tous les banquets que nous avons partagés ensemble avec le Seigneur. Et donc les chansons japonaises traditionnelles a toujours la référence avec la lune, les cerisiers, le nuage, plein de choses. Donc ça s'appelle la lune, pleine lune dans le château en ruine. Voilà, c'est ça.
Et là, c'est la région, donc vous l'avez dit.
En fait, c'est la, c'est pas une région. Première chanson qui a été composée sur le partition occidentale début donc 1901. Voilà. Et donc ça a été interprété par des musiciens classiques occidentaux. Et en même temps, des instrumentistes japonais ou chanteurs japonais. Donc, cette chanson a vraiment été très, très, très populaire. Et ce sera une chanson qu'on apprend à l'école, la première chanson. À l'école, pour le choral.
Pour le choral, voilà. Oui, pour une chorale. Donc c'est un trait d'union entre l'Occident et puis l'Extrême-Orient. Peut-être pourra-t-on un jour certainement trouver la partition ici, éditée certainement. Alors le nom, en tout cas, c'est Koyo no Tsuki, c'est bien ça ?
Koyo no Tsuki.
C'est mieux. Alors il nous reste un petit peu de temps encore, un petit quart d'heure peut-être, je m'adresse à Michel. Et donc, qu'avons-nous après ? Est-ce que c'est bien le chant du samouraï devant le Seigneur au banquet ? C'est ce que j'ai écrit, c'est ce que j'ai transcrit en tout cas. Ou est-ce que c'est bien ça ?
Oui.
Alors, là, il s'agit bien d'un ensemble instrumental. C'est bien ça ? Ou est-ce qu'il y a toujours du chant ?
Oui, c'est ça, exactement.
Voilà.
Oui, Claude Abouchy. Ouais. Voilà. C'est la même région que cette chanson berceuse de 10 ans. Voilà, c'est ça.
Eh bien,
Claude Abouchy.
On va l'écouter, puis on en reparle juste après. Pendant que...
Alors, petit problème ici depuis la régie, je me rends compte que j'avais des requêtes YouTube qui étaient disponibles, mais comme ma vue est très mauvaise au niveau de l'écran, j'ai aucune difficulté à lire le japonais, mais ma vue est très mauvaise parce que c'est écrit en petit sur l'écran, je n'ai pas sélectionné le bon morceau. Donc, on va vérifier ici. Ah. Oui.
Magnifique.
Eh ben voilà, là on a retrouvé le bon effectivement. Oui. Je me rends compte que comme un con, j'avais lu à l'envers.
Namjo jisen ryo 島公前にして武士には泣き者をとは飲み取る瞑想日本語肩に担いだ森へ対比馬上に植えた不老だ武士
nous dit Nicolas. Eh bien, je vous rappelle que vous écoutez l'émission Dessous de scène, pilotée, comme j'aime bien le dire, par Nicolas. Et nous sommes donc le 1er juin 2024 en compagnie de Hiroko Kageyama. Et Hiroko est donc debout devant le micro pour que le souffle sorte parce qu'elle va nous faire quelque chose là aussi.
Heureusement que je suis petite et que...
Oh, ça devrait aller. Oui, ça devrait aller. Il y a à peu près 30-40 centimètres entre le micro et Hiroko. Et donc là, c'est un exercice... là, c'est a cappella.
A cappella, oui.
Il n'y a aucun instrument. Ouais. Si, là-bas, non,
rien du tout.
Rien du tout.
Je voudrais donc... je vais chanter une chanson d'un vassal qui voudrait montrer son loyauté au l'empereur qui a été chassé par les samouraïs donc parce que il voulait prendre la reine reprendre la reine de l'empereur et en fait ça s'est pas fait et c'est un vassal qui vient pour soutenir, mais au fait, le groupe de l'empereur, il était déjà parti. Donc, il avait coupé l'écorce de cerisier et il fait une poème. Donc, je vais vous faire une lecture de poème, mais vous imaginez un petit peu cerisier en fleurs dans le Doubs et des feuilles tombent et dans le lointain, dans le fade-up, il y a le samouraï qui est en train de écrire un poème et voilà. Donc c'est un poème en musique. En fait, c'est pas la musique, mais je vais essayer de vous raconter cette histoire. Vous imaginez un petit peu le rêve de Kurosawa, ok? Cerisier en fleurs.
Sakura orochiru in no sho toki mukashi o shinobureba miki o kezurite takanori ga kaita shisei no uta ga tami.
Oh, my God.
Eh bien, pendant cette musique, j'étais presque en train de battre la mesure comme un chef d'orchestre devant un orchestre symphonique. Très rythmé, hein, cette fête de village.
Oui, c'est ça. Ouais.
Et c'est vraiment... Et hors antenne, on se disait avec mon invité Hiroko Kageyama, c'est qu'on a entendu, là, grâce à votre choix, une très belle diversité d'instruments.
Exactement, oui. Aussi bien populaire que
savant,
et que les koutous, le shamisen, le guitare, c'est dans le salon de geisha avec le grand patron dans les villas à Kyoto. Donc vous avez vraiment panoplie.
On a aussi bien la ville avec les centres de pouvoir.
Exactement.
Que le milieu rural.
Exactement.
Notamment les pêcheurs, les agriculteurs.
Exactement.
On a tous les styles.
Voilà.
Et les mineurs aussi, ouais, la mine, ouais. Le travail difficile.
Ouais.
Donc je vous rappelle, vous écoutez l'émission Dessous de scène sur Radio Libertaire. Radio Libertaire 89.4 MHz sur Paris et partout dans le monde. Donc, notre invité pourra envoyer le podcast. Vous savez que le podcast, il est disponible pendant un an. Mais donc, on peut récupérer le podcast et notre invité, Hiroko, pourra l'envoyer un peu partout dans le monde.
Merci Laurent de m'avoir invité et de pouvoir partager des rythmes et la musique des travailleurs japonais.
C'est vrai que c'est un répertoire. Là, vous nous avez en plus donné des éclaircissements justement sur la signification des textes et de la situation, et puis aussi d'un contexte social, c'est-à-dire on est aussi bien chez les samouraïs que chez les pêcheurs. Donc on a vraiment fait un voyage dans cette culture japonaise qui est, on en parlait hors antenne, qui est vraiment séculaire et millénaire. Enfin c'est vraiment une culture. Justement, je vous ai posé la question hors antenne, quelles sont les influences ? Mais en fait c'est un art qui est né dans cette île. Il n'y a pas d'influence majeure. C'est vraiment la création de tout un peuple et puis de toute une élite également pour tous les arts. Est-ce que c'est bien ça ?
C'est tout à fait ça, oui.
Alors je vois que Nicolas a suivi avec beaucoup d'attention et même un peu d'émotion que je vois derrière la vitre là-bas. Michel a été très très attentif également et je répète à nos auditeurs, donc on peut réécouter cette émission en podcast pendant un an, émission Dessous de scène, D-E-U-X pour ceux qui nous capteraient pour la première fois, S-O-U-S plus loin D-E plus loin, la scène comme la scène de théâtre. Voilà. Eh bien, notre séquence s'achève. Merci Hiroko, et puis un grand merci à un monsieur qui fait beaucoup pour la chanson et qui est lui aussi tisse des passerelles depuis 40 ans, c'est monsieur Hirofumi Shonan, que Hiroko peut aussi remercier. Hirofumi.
Grâce à Hirofumi-san, nous avons pu avoir cette occasion et j'espère que on va persévérer cette culture dans le monde.
Voilà, et puis un petit coucou à deux jeunes comédiens japonais, puisque c'est grâce à Sanshiro, qui chante Barbara et qui fait du théâtre, que j'ai rencontré il y a quelques mois, grâce aussi à Hirofumi, je veux vraiment le remercier. Et puis qui est une jeune comédienne qui va bientôt revenir à Paris. Voilà, j'ai des contacts avec le monde du Japon, ben, ça nous permet justement de faire une très belle séquence. Merci en tout cas encore à Nicolas d'avoir été si ouvert à ma proposition. Merci à Hiroko Kageyama. Et maintenant, bien place à la lecture d'un extrait d'œuvre de Marcel Fobbs. C'est notre ami Michel qui ouvre une Bible et qui va nous lire quelques extraits.
D'accord, j'y vais. Ouais, je vais vous lire Lilith. C'est un texte qui s'appelle comme ça. Voilà, alors... Lilith, c'est dans donc un recueil de Marcel Schwab. Et voilà, je pense qu'il l'aima autant qu'on peut aimer une femme ici-bas. Mais leur histoire fut plus triste qu'aucune autre. Il avait longtemps étudié Dante et Pétrarque, les formes de Béatrice et de Laure flottaient devant ses yeux, et les divins vers où resplendit le nom de Françoise de Rimini chantaient à ses oreilles. Il avait passionnément aimé, dans les premières ardeurs de sa jeunesse, les vierges tourmentées de Corrège, dont les corps voluptueux, épris du ciel, ont des yeux qui désirent, des bouches qui palpitent, et appellent douloureusement l'amour. Plus tard, il admira la pâle splendeur humaine des figures de Raphaël, et leur sourire paisible, et leur contentement virginal. Mais lorsqu'il fut lui-même, il choisit pour maître, comme Dante, Brunotti, Latini, et vécut dans son siècle, où les faces rigides ont l'extraordinaire béatitude des paradis mystérieux. Et parmi les femmes, il connut d'abord Génie, qui était nerveuse et passionnée, dont les yeux étaient adorablement cernés, noyés d'une humidité langoureuse, avec un regard profond. Ce fut un amant triste et rêveur. Il cherchait l'expression de la volupté avec une âcreté enthousiaste. Et quand Génie s'endormait lassé aux rayons du matin, il épandait les guinées brillantes parmi ses cheveux ensoleillés. Puis, contemplant ses paupières battues et ses longs cils qui reposaient, son front candide qui semblait ignoré du péché, il se demandait amèrement, accoudé sur l'oreiller, si elle ne préférait pas l'or jaune à son amour. Et quel rêve désenchantant passait sous les parois transparentes de sa chair! Puis il imagina les filles des temps superstitieux qui envoûtaient leurs amants, ayant été abandonnées par eux. Il choisit Hélène. Il tournait dans une poêle d'airain l'image en cire de son fiancé perfide. Il l'aima, tandis qu'elle lui perçait le cœur avec sa fine aiguille d'acier. Et il la quitta pour Rosemarie, à qui sa mère, qui était fée, avait donné un globe cristallin de béryl comme gage de sa pureté. Les esprits du béryl veillaient sur elle et la berçaient de leurs chants. Mais lorsqu'elle succomba, le globe devint couleur d'opale, et elle le fendit d'un coup de glaive dans sa fureur. Les esprits du béryl s'échappèrent en pleurant de la pierre brisée, et l'âme de Rosemarie s'envola avec eux. Alors il aima Lilith, la première femme d'Adam, qui ne fut pas créée par de l'homme. Elle ne fut pas faite de terre rouge comme Ève, mais de matière inhumaine. Elle avait été semblable au serpent, et ce fut elle qui tenta le serpent, pour tenter les autres. Il lui parut qu'elle était plus vraiment femme, et la première, de sorte que la fille du Nord, qu'il aima finalement dans cette vie, et qu'il épousa, il lui donna le nom de Lilith. Mais c'était un pur caprice d'artiste, Elle était semblable à ces figures pré-raphaélites qu'il faisait revivre sur ses toiles. Elle avait les yeux de la couleur du ciel, et sa longue chevelure blonde était lumineuse comme celle de Bérénice, qui, depuis qu'elle l'offrit aux dieux, est épandue dans le firmament. Sa voix avait le doux son des choses qui sont près de se briser. Tous ses gestes étaient tendres comme des lissements de plumes, et si souvent elle avait l'air d'appartenir à un monde différent de celui d'ici-bas, qui la regardait comme une vision. Il écrivit pour elle des sonnets étincelants qui se suivaient dans l'histoire de son amour, et il leur donna le nom de Maison de la Vie. Il les avait copiés sur un volume, fait avec des pages de parchemin. L'œuvre était semblable à un missel patiemment enluminé. Lilith ne vécut pas longtemps, n'étant guère née pour cette terre, et comme ils savaient tous deux qu'elle devait mourir, elle le consola du mieux qu'elle put. « Mon aimé, lui dit-elle, des barrières d'or du ciel, je me pencherai. Vers toi, j'aurai 3 lys à la main, 7 étoiles aux cheveux, et je te verrai du pont divin qui est tendu sur l'éther, et tu viendras vers moi et nous irons dans les puits insondables de lumière, et nous demanderons à Dieu de vivre éternellement comme nous nous sommes aimés au moment, un moment ici-bas. » Il la vit mourir tandis qu'elle disait ces mots, et il en fit aussitôt un poème magnifique, le plus beau joyau dont on eût jamais paré une morte. Il pensa qu'elle l'avait quitté déjà depuis 10 ans, et il la voyait penchée sur les barrières d'or du ciel, jusqu'à ce que la barre fût devenue tiède à la pression de son sein, jusqu'à ce que les lys se fussent assoupis dans ses bras. Elle lui murmurait les mêmes paroles, puis elle écoutait longtemps et souriait. Tout cela sera quand il viendra, disait-elle, et il la voyait sourire. Puis elle tendait ses bras le long des barrières, et elle plongeait sa figure dans ses mains, et elle pleurait. Il entendait ses pleurs. Ce fut la dernière poésie qu'il écrivit dans le livre de Lilith. Il le ferma pour jamais, avec des fermoirs d'or, et brisant sa plume, il jura qu'il n'avait été poète que pour elle, et que Lilith emporterait sa gloire dans sa tombe. Ainsi les anciens rois barbares enterrent suivis de leurs trésors et de leurs esclaves préférés. On égorgeait au-dessus de la fosse ouverte les femmes qui l'aimaient, et leurs âmes venaient boire le sang vermeil. Le poète qui avait aimé Lilith lui donnait la vie de sa vie et le sang de son sang. Il immolait son immortalité terrestre et mettait au cercueil l'espoir des temps futurs. Il souleva la chevelure lumineuse de Lilith et plaça le manuscrit sous sa tête. Derrière la pâleur de sa peau, il voyait luire le maroquin rouge et les agrafes d'or qui resserraient l'œuvre de son existence. Puis il s'enfuit, loin de la tombe, loin de tout ce qui avait été humain, emportant l'image de Lilith dans son cœur et ses vers qui sonnaient dans son cerveau. Il voyagea, cherchant les paysages nouveaux, ceux qui ne lui rappelleraient pas son ami, car il voulait en garder le souvenir par lui-même. Non que la vue des objets indifférents la fit reparaître à ses yeux, non pas une Lilith humaine, en vérité, telle qu'elle avait semblé être dans une forme éphémère, mais une des élues idéalement fixées au-delà du ciel et qu'il irait rejoindre un jour. Mais le bruit de la mer lui rappelait ses pleurs, et il entendait sa voix dans la basse profonde des forêts. Et l'hirondelle tournant, sa tête noire semblait le gracieux mouvement du cou de la bien-aimée. Et le disque de la lune, brisé dans les eaux sombres des étangs de clairières, lui renvoyait des milliers de regards dorés et fuyants. Soudain, une biche entrant au fourré lui étreignait le cœur d'un souvenir. Les brumes qui enveloppent les bosquets, à la lueur bleutée des étoiles, prenaient forme humaine pour s'avancer vers lui, et les gouttes d'eau de la pluie qui tombent sur les feuilles mortes semblaient le bruit léger de ses doigts aimés. Il ferma ses yeux devant la nature, et dans l'ombre, où passent les images de lumière sanglante, il vit Lilith telle qu'il l'avait aimée terrestre, non céleste, humaine, non divine, avec un regard changeant des passions et qui était tour à tour le regard d'Hélène, de Rosemary et de Jenny. Et quand il voulait se l'imaginer penché sur les barrières d'or du ciel parmi l'harmonie des sept sphères, son visage exprimait le regret des choses de la terre, l'infélicité de ne plus aimer. Alors il souhaita d'avoir les yeux sans paupières, des êtres de l'enfer, pour échapper à ces si tristes hallucinations. Et il voulut ressaisir par quelque moyen cette image divine. Malgré son serment, il essaya de la décrire, et la plume trahit ses efforts. Ses vers pleuraient aussi sur Lilith, sur le pâle corps de Lilith que la terre enfermait dans son sein. Alors il se souvint, car 2 années s'étaient écoulées, qu'il avait écrit de merveilleuses poésies où son idéal resplendissait étrangement. Il frissonna. Quand cette idée lui reprit, il le tint tout entier. Il était poète avant tout. Corrège, Raphaël et les maîtres pré-raphaélites, Jenny, Hélène, Rosemary et Lilith n'avaient été que des occasions d'enthousiasme littéraire. Même Lilith, peut-être. Et cependant, Lilith ne voulait revenir à lui que tendre et douce comme une femme terrestre. Il pensa à ses vers et il lui en revint des fragments qui lui semblèrent beaux. Il se surprit à dire, et pourtant, il devait y avoir là des choses bien. Il remâcha l'âcreté de la gloire perdue. L'homme de lettre revécut en lui et le rendit implacable. Un soir, il se retrouva, tremblant, poursuivi par une odeur tenace qui s'attache aux vêtements, avec de la moiteur de terre aux mains. Un fracas de bois brisé dans les oreilles. Et devant lui, le livre, l'œuvre de sa vie, qu'il venait d'arracher à la mort. Il avait volé Lilith, et il défaillait à la pensée des cheveux écartés, de ses mains fouillant parmi la pourriture de ce qu'il avait aimé, et de ce Marocain terni qui sentait la morte, de ses pages odieusement humides, d'où s'échappait la gloire avec un relent de corruption. Et lorsqu'il eut revu l'idéal un instant senti, quand il crut voir de nouveau le sourire de Lilith et boire ses larmes chaudes, il fut pris du frénétique désir de cette gloire. Il lança le manuscrit sous les presses d'imprimerie, avec le remords sanglant d'un vol et d'une prostitution, avec le douloureux sentiment d'une vanité inassouvie. Il ouvrit au public son cœur et en montra les déchirements. Il traîna sous les yeux de tous le cadavre de Lilith et son inutile image parmi les demoiselles élues. Et de ce trésor forcé par un sacrilège entre les ruissellements des phrases, retentissent des craquements de cercueil.
Un coup de dent, je t'arrache les yeux. Un cinglé au bout de son trimard qui se crame les yeux sur un ours en chaleur. Du côté de ses nuits où s'enfuit le hasard, avec les doigts collés de foutre et de sueur, y a toujours un taxi qui se perd dans la brume, avec une reine morte en peinture aux fantômes, et de vieux corbeaux sans marge du bitume qui s'en viennent crever au détour de ta zone. Un pingouin qui souffle ses poumons à travers un saxo branché sur du mélon, et des gosses exilés qui maquillent ton nom sur les fiches transit d'hôtels hallucinants. Y'a toujours un pigeon qui s'envole en fumée dans les couloirs visqueux d'un vieux rêve agonie, et des cigares bandants sur les lèvres flippées de dieux défigurés maquillés par tes nuits. Toilette, une petite galette, une petite fumette, une rue.
Voilà, fallait bien que je vous passe quand même quelques mesures des dingues de la déglingue, Lilith de Hubert Félix Thieffen, et puis on va conclure effectivement cette émission par le clin d'œil à notre ami Alain Minot par Evelyne.
Y a-t-il des seuils où s'ouvrent des havres qui offrent bon accueil ? Lumière, tendresse, justice, on vous cherche. Qu'elle ne soit ni provisoire, ni aléatoire. Il y a de ces soirs glaciaux ou pluvieux, où l'on entend ces voix venues du centre de la ville, du cœur des cités, venues comme d'autres tombes, qu'elles vivent et disent. Elles étaient indicibles ou invisibles, mais elles vous rencontrent et vous racontent des bribes de leur monde, qui est bien autre, qu'elles soient entendues. Paria, exilés, exclus, mais jamais perdus dans leur ronde, qu'ils vivent. Ouvriers pauvres de partout, ici, ces constructeurs assemblés dans des havres branlant sur leur base, que les monstres froids vouent à la destruction, qu'ils vivent. Jeunes des cités, éperdus, sans avenir ni espoir, sauvages parfois, au seuil des immeubles bétonnés, qu'ils vivent. Itinérants fixés après mille périples dans des havres de fortune, rejetés, stipendiés de partout, qu'ils vivent. Vieux soldats aux guerres, noués au cœur, méprisés, balayés jusque dans l'histoire, qu'ils vivent. Comme sont balayés les grands âges pétris par leur vie, qui ne leur promet plus rien, sur les seuils aussi, qu'ils vivent et vous apprennent. Et ces femmes, seules, aux suppliques pour leurs enfants, ici aussi, ne voulant se retirer du monde, qu'elles vivent avec leurs enfants. Et tant de misère pour arracher des havres des sangs, que les monstres froids insultent en voulant éteindre lumière et tendresse sur les seuils. Non plus de maisons insalubres, plus de déserts de béton branlant, plus de foyers insalubres pour elles. Suffit la survie cachée, capacité et recherche du partage. Tout ce qui, pour les monstres accumulateurs, est insulte inacceptable. Accueil combattant, les thénardiers de l'esclavage illégal, les thermidoriens de la parole vide de justice, les tenanciers des souches et de toutes les chauvines avarices, le tout jusqu'à l'insulte mercantile. Tolérance zéro. Avec la complicité des tenants de « On ne peut accueillir toute la misère du monde !» Parole de barbares, parole de terreur des nantis. Notre colère, notre soif, jamais rassasiée d'avancées fécondes, celle de l'innocence savante pour des pas décisifs vers la justice, vers la principauté de l'accueil qui ne solderait rien de nos aspirations. La gueule béante qui les nie, dans des lois sans âme, dans celles qui envahissent les discours, celles des compétiteurs de pouvoir adaptés au règne de l'accumulation, celles d'un délire qui dure et divise, celles d'une guerre sans sommation, n'en finirons-nous jamais de déceler le monde de ces serrures d'acier. Nous, gens de peu, gens de rien, comptons, tenons nos désirs pour réalité, à franchir tous les seuils du partage et ouvrir de nos mains l'ultime serrure, celle du château de nos rêves. Assez vu, assez connu, cette survie qui respire une odeur de mort et de prison, un grand havre sans ruine, ni insalubrité, une belle entrée dans le oui à toutes les rencontres, notre pays à reconquérir. Alain Minot.
Et voilà, c'était effectivement un texte d'Alain Minot qui fut l'un des poètes de cette émission sur l'antenne de Radio Libertaire. La semaine prochaine, dans Dessous de scène, il y aura Jean-Luc de Baptiste. Et puis, sur Radio Libertaire, dans l'immédiat, c'est Bulle Noire. Clac.
T'as bien capté, bulle noire, sur Libertaire, Radio Libertaire. On va parler de polar, sur Libertaire, Radio Libertaire.
De 17h à 19h,
baby,
ton âme. des auteurs. Du libertaire.
T'as bien capté, bulle noire. Du libertaire. Radio libertaire. On va parler de Paula. Du libertaire. Radio libertaire.
Attention, c'est pas l'heure de 4 heures.
Baby,
faut pas te tromper, les flingues vont sortir des holsters.
Bien capté, bulle noire. Sur libertaire.
Radio libertaire.
On va parler de Paula. Sur libertaire. Radio libertaire.
On parle de 38, de calibre 44.
Baby.
Mais bien sûr, tu es sur 89.4.
Radio Liberté.
Radio Liberté.
Radio Liberté.
Radio Liberté.
Radio Liberté.
Radio Liberté. Radio Libertaire sur 89.4.
Bonjour à tous, et bien comme il est annoncé sur l'agenda de la radio, que je vous invite, amis auditeurs de Radio Libertaire, à consulter régulièrement pour savoir le programme de cette émission, des futures bulles noires à venir d'ici la fin de l'année et pour l'année prochaine, eh bien aujourd'hui nous faisons une spéciale les auteurs français qui sont fascinés par les États-Unis. Et la première que nous recevons, c'est Marine Béliard qui vient de publier aux éditions Rivage Noir, A Queen in New York. Bonjour Marine.
Bonjour Stéphane.
Et ensuite on parlera du roman, d'un album photo. D'un garçon qui s'appelle Édouard Copeil et qui va nous rejoindre dans quelques minutes, mais là il est coincé. Bon, Marine Béliard, A Queen in New York, évidemment ça se passe